Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non! Non!
Mon pinès, oui!
Pas ça! Non!
Mon nom.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Breaking Bad, la série culte d'AMC. La semaine dernière, pour notre premier épisode, on s'intéressait à la narration de cette série, à sa symbolique et à sa manière de changer notre rapport aux personnages. Aujourd'hui, focus sur les personnages, justement, on va se pencher sur celles et ceux à travers qui l'histoire de Breaking Bad prend vie. À mes côtés pour décortiquer tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors Breaking Bad, c'est bien sûr le personnage de Walter White, un prof de chimie reconverti en baron de la drogue, mais c'est aussi Skyler, son épouse, et Jesse Pinkman, son ancienne élève devenue son acolyte, et puis toute une panoplie de personnages qui ne laissent pas indifférents, comme Hank, le beau-frère qui travaille à la DEA, la brigade anti-drogue américaine, Gus Fring, le grand méchant trafiquant, aussi élégant que machiavélique, ou encore Saul Goodman, avocat véreux qui sauve la mise de Walt plus d'une fois. Tous ces personnages gravitent autour de Walter White, incarné par Bryan Cranston. On parlera du comédien plus en détail dans le prochain épisode de ce podcast, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde sur son personnage.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Walter White, donc prof de chimie banal, pas si banal que ça en fait, hein.
Non, certainement pas banal et aussi probablement arrivé au bon moment à la télévision parce que je pense qu'un des succès de Walter White auprès du public d'AMC, donc la chaîne qui diffusait le film, c'est précisément toute la frustration qu'il porte. Il y a un essayiste américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Des hommes tourmentés », c'est un gars qui s'appelle Brett Martin, et qui étudiait en fait sur quoi reposait le troisième âge d'or de la série américaine, et pour lui reposer sur ces figures-là, c'est-à-dire celles d'hommes d'âge mûr qui ont été entre guillemets baisés par la vie et qui arrivaient voilà, à une période de leur vie, ne peuvent plus gérer cette frustration. Donc Tony Soprano, il pète un plomb littéralement, il va chez le psy, et donc Walter White... finalement, il ne peut plus lutter. Quoi. La vie l'a vraiment trop mis la tête sous l'eau, qu'à un moment donné, il faut que ça pète. Et le public qui est ciblé par ces séries-là, ce n'est pas le public américain, parce que nous, en France, on a tendance effectivement à considérer HBO, AMC, etc., comme les emblèmes de la télévision américaine, mais on oublie que ce n'est pas c'est pas ces chaînes-là qui sont le plus vues. Ces chaînes-là sont surtout vues par un public citadin qui paye, en fait, parce que c'est des chaînes câblées, et donc un public qui est déjà... une certaine assise financière, mais pas suffisante. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui se battent, et notamment au début des années 2000, avec les crises successives que les Américains ont pu connaître, sont arrivés à un point de rupture. En fait, cette middle class, elle est arrivée à un point de rupture, et ce personnage, il incarne la frustration de cette middle class.
Mais oui, ce professeur qui est malade et qui n'est pas en mesure de payer lui-même ses traitements, qui se retrouve acculé et face à un choix. Finalement, c'est un épisode décisif hein, dans la saison 1, l'épisode 5, où il a la possibilité de faire payer son traitement médical par son ancien collaborateur avec qui il a cofondé une entreprise. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc Walter White, avant d'être un prof dans une université publique ou un lycée public, il a quand même fait des recherches qui ont contribué à un projet qui a reçu un prix Nobel de chimie. Il a monté une entreprise avec un ancien camarade de classe qui s'appelle Elliot Schwartz, oui. White Schwartz. Ils ont appelé leur entreprise Grey Matter. Et puis finalement, il a quitté la boîte.
On précise pour les non-anglophones, germanophones, que White, donc c'est blanc et Schwartz, c'est noir. Et du coup, Grey Matter, la matière grise, qui est évidemment la matière intelligente, est au cœur de. Entre le noir et le blanc. Encore une fois, une réaction. Chimique d'une certaine façon.
Tout à fait. Et dans cet épisode-là, donc, qui s'appelle justement Grey Matter, Walter va voir son ancien collaborateur. Donc lui a claqué la porte des années plus tôt en revendant les parts de la société qu'ils avaient montée ensemble pour 5 000 $. Et aujourd'hui, la boîte a prospéré et son ancien collaborateur est devenu multimillionnaire. En plus, il a épousé l'ancienne petite amie de Walt. Donc, c'est vraiment celui qui a réussi sa vie, là où Walt a tout raté.
Ou il pourrait considérer qu'il lui a volé sa vie. La raison pour laquelle il va s'en servir comme alibi, puisque donc il va justifier les entrées d'argent auprès de sa femme, par le fait que son traitement soit payé, parce qu'en fait il paye son traitement lui-même avec l'argent de la drogue, et il va justifier auprès de sa femme en lui disant que c'est finalement son ami qui se sentirait coupable d'une certaine façon et qui voilà qui paye pour son traitement, ce qui est absolument pas vrai, mais ce qui est parce qu'il souhaitait que cet ami à un moment donné reconnaisse ses torts de cette façon-là.
C'est ça, effectivement, ouais. dans cet épisode-là, en fait, donc Walt se retrouve face au choix de accepter de se faire payer ce traitement par cet ancien ami. Donc il a la possibilité à ce moment-là de choisir le droit chemin et de ne pas se transformer en baron de la drogue, exactement. Et finalement, il décide consciemment à ce moment-là.
Mais c'est un personnage qui est très intéressant aussi, Walter White, parce que c'est un personnage qui est complètement drivé par son ego. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce que ça fait ressortir, en fait, son ego vis-à-vis de ce que les gens pensent de son travail, en l'occurrence de la meth, tu vois, puisque en fait, il a beau savoir qu'à la base, il fait ça pour des raisons pragmatique en fait, c'est-à-dire payer son traitement,
mettre sa
famille à l'abri, et c'est exactement le ce qu'il se maintient en fait pour se dire qu'il fait ça pour les bonnes raisons, tout son empire criminel qu'il est en train de mettre en place, mais c'est un personnage qui est poursuivi par son ego. L'extrait que tu as utilisé, il est assez important parce que c'est le moment clé où Skyler comprend vraiment en fait qu'il a atteint le point de non-retour. C'est-à-dire que il y a un jeu entre les deux personnages qui est que elle est enceinte au début de la série. Ils peuvent pas vraiment détruire la famille. Il y a vraiment ce questionnement qui se pose et elle finit par elle-même le rejeter pour finalement le reprendre, mais tout en étant dans une logique où elle va comprendre que comme il est en train de faire ça, elle va tout faire pour pouvoir laver l'argent qu'il récupère, etc., etc. Enfin, le blanchir, pardon. Et là, c'est le point de non-retour. C'est vraiment le moment où elle s'est dit, mais en fait, il est vraiment violent. En fait, il est vraiment, c'est pas quelque chose qu'il fait pour nous. C'est quelque chose aussi qu'il fait pour, comment dire, parce que, en fait, son ego le mène à prendre une revanche sur sa vie. Donc, en fait, ça arrive assez tardivement, je crois. Hein. Je sais plus dans quelle saison c'est, cet extrait, mais il y a tout un jeu relationnel entre eux. Et c'est important parce que il faut comprendre que ce qu'il va perdre, Walter White, c'est Walter White, en fait. Vraiment, il y a pas de... Comment dire et je pense que c'est déjà ce qu'il avait perdu quand il a refusé, en fait, ce deal avec son ancien partenaire, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc d'ego qui faisait qu'il pouvait pas se dire qu'il ne pouvait pas être le seul à vraiment bénéficier des fruits de ses recherches, quoi. Donc, je pense que, ouais, c'est un personnage qui est extrêmement faillible. Et mine de rien, il faut arriver à écrire un personnage comme ça et arriver à le soutenir en fait pendant 5 saisons parce qu'on le met constamment, même s'il est brillant, intelligent et tout ce que tu veux, tout ça c'est au service du mal en fait. Donc il y a quelque chose d'assez, c'est fascinant, mais c'est casse-gueule, en fait. Et mine de rien, je trouve qu'ils arrivent vraiment à bien gérer cette situation la plupart du temps.
Ce que tu disais, c'est qu'au début, dans les premières saisons, il a l'excuse de « je fais ça pour ma famille, je fais ça pour eux ». Et c'est seulement à la toute fin, dans la toute dernière saison, qu'il finit par avouer à sa femme « en fait, j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour me sentir vivre ».
Voilà, exactement. Et du coup, même s'il y a ça, il y a quand même cette idée que, à la fin, il revient voir Jesse quand même, il essaye de l'aider, etc. Il y a quand même des trucs, rédempteurs, entre guillemets. Mais en fait, c'est un personnage qui va très très loin. Moi, je pense que le vrai point de non-retour de ce personnage-là, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais c'est vraiment le fait qu'il laisse mourir le personnage de Jane. Jesse Pinkman a une relation avec une jeune fille qui est en fait sa propriétaire. Et en gros, il tombe vraiment amoureux. C'est... entre guillemets des âmes sœurs, quoi. C'est vraiment en fait ils se révèlent à eux-mêmes en fait dans leurs conditions un peu misérables. Elle, c'est une junkie, donc Jesse tombe dans la drogue avec elle, dans l'héroïne, donc ils ont des moments et il se perd complètement, et d'un seul coup en fait Walter
elle se met à faire chanter Walter White, surtout
voilà, parce qu'il y a ce moment où en fait d'un seul coup Jesse n'apparaît plus pour venir faire cuisiner de la meth, quoi, et d'un seul coup elle se met en travers de deux, et un soir il vient les voir pour parler, et en fait il se rend compte qu'elle commence à faire une overdose puisqu'ils sont complètement shootés, et il la laisse mourir. Et en fait ce moment là c'est plus que machiavélique, parce que c'est un meurtre non prémédité, mais déguisé en accident, en fait, en overdose, quoi.
Non seulement il fait ça, c'est-à-dire qu'il la laisse mourir, mais en fait, il va aussi laisser Jesse croire qu'il est responsable de la mort de cette jeune fille, alors, qui aurait pu être sauvée, oui. Mais cet épisode-là, d'après Vince Gilligan, c'est la seule fois où il a vraiment dû négocier avec la chaîne. Exactement, c'était passé exactement la même chose avec les Sopranos, hein, le fameux épisode où Tony tue cet indique qui ne lui a rien fait. La chaîne avait paniqué et pensait que c'était la mort de la série qui était assurée. Et là, AMC, effectivement, a tiqué sur cette scène-là.
À l'origine, il me semble même qu'en fait, il devait avoir une part plus active dans la mort de Jane, et que finalement, suite aux discussions, il s'est contenté de rester passif face à
la détresse. Ce qui est, précisons-le, pour ceux qui ne connaissent pas la loi, un acte criminel, en fait, de laisser mourir quelqu'un sciemment.
Mais c'est presque pire. En fait, moi, je trouve que c'est marrant, parce qu'en fait, les logiques de censure studio, je ne sais pas quoi, en fait, ça crée des situations encore plus, je trouve, tragiques et graves.
Parce qu'il n'y a même pas le passionnel qui rentre en compte.
Mais
il y a un caractère froid et calculateur qui est terrible, en fait, ce qui est au-delà de la violence.
Et puis ça concerne un personnage, en fait, mine de rien, en fait, quoi qu'il arrive, la relation que Walter White peut avoir avec Jesse Pinkman, c'est une relation de mentor à élève, on va dire. Et forcément, en fait, le spectateur peut un peu se projeter dans quelque chose de, certes, toxique, ça c'est sûr, mais tu sens que c'est quand même... il le traite presque plus comme son fils qu'il ne le traite son fils comme son fils dans la série. Donc en fait, il y a cette espèce de truc où tu te dis, mais ça révèle la toxicité totale du personnage et le côté vraiment... parce qu'il touche à quelque chose qui pourrait être presque... quelque chose de rédempteur pour lui, c'est-à-dire le côté genre, il s'apprécie, en fait, les deux s'apprécient, même si c'est très compliqué, on va dire, quoi. Et moi, je dirais que si je peux émettre vraiment une critique sur la série, c'est vraiment, cette bascule, elle est tellement forte, tellement importante, qu'en fait, elle a teinté leur relation, pour moi, en tant que spectateur, et je trouve qu'ils mettent beaucoup trop de temps à vraiment l'aborder et le créer, ce qui fait que ça génère en fait un déséquilibre dans le personnage de Jesse. C'est-à-dire que Jesse devient presque trop manipulateur, trop facilement. Trop manipulable, pardon. Oui, merci. En fait, il devient trop manipulable et presque du coup stupide. Et le seul vraiment le truc qui le rattrape, c'est sa bonté, en fait. Parce que, mine de rien, c'est un personnage qui a une certaine pureté. Il y a pas mal de scènes, par exemple, après où il est vraiment très touchant. Il y a cette scène où il passe son temps à écouter, à appeler en fait le téléphone de Jane pour entendre sa voix une dernière fois à chaque fois et la voix de son répondeur jusqu'à ce que en fait le téléphone soit plus payé et du coup en fait le numéro n'est plus attribué et c'est déchirant en fait parce que c'est une toute petite idée mais ça le rend tellement touchant et tellement attachant de le voir paumé comme ça et de le voir souffrir que du coup ça rattrape sa naïveté qui, moi, je trouve, confine parfois à la stupidité. Mais bon, c'est voilà. Et du coup, je trouve ça, oui, dommage que finalement, le Potoro soit dévoilé vraiment à Jesse, vraiment sur la toute fin, parce que certes, il y a des moments où il s'en doute, mais comme il penche du côté de la naïveté, il n'arrive pas à croire que ce soit possible. Et tu as envie de dire, putain, toi, en tant que spectateur, ça fait déjà 3 saisons que tu le sais. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, il tire trop à la ligne pour moi sur ce truc-là, et c'est vraiment dommage. Mais c'est à la fois compréhensible, parce que ça aurait vraiment cassé une dynamique. Et comment tu te relèves de ça, ça aurait été compliqué. Comment tu le fais en sorte que les personnages se re-retrouvent ensemble après un acte aussi, finalement, destructeur, quoi. Mais du coup, je trouve que ça délaye un peu la série. Elle aurait pu durer un peu moins longtemps et justement plus se concentrer sur cette problématique-là, à mon sens.
On peut préciser, pour s'attarder un petit peu sur son interprète.
Alors, quand même... on en parlera plus en détail d'Aaron Paul dans le...
Ah non, tu voulais parler de Bryan Cranston, oui.
Dans le prochain épisode.
Ah, pardon.
On aura un épisode complet consacré aux comédiens, ouais. Aux showrunners, etc. Y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on va revenir sur Jesse dans une petite minute, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné quand même qui est important à propos de Walt, c'est son personnage, son double, Isaac.
Oui.
Ça, il y a un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde là-dedans.
Oui, la création d'une figure mythologique. Déjà lui, évidemment, c'est son couvert d'alibi. Ce qui est aussi ce qui va peut-être en partie le perdre, parce que Hank va finalement finir par avoir une piste par rapport à ça. Mais il y a l'idée aussi dans la série de montrer ce dont Walter White n'est pas témoin, c'est-à-dire ce que cette figure d'Heisenberg est en train de devenir, parce qu'on a des épisodes notamment qui se passent au Mexique et qui nous montrent que son portrait est à l'intérieur d'une chapelle que des gens viennent prier, etc. Donc il est devenu une espèce de demi-dieu pour avoir tué des barons de la drogue auprès d'une population qu'il rencontrera jamais de sa vie. Donc il y a, sa légende le dépasse, et ça se reflète aussi dans, comme tu nous en parlais dans l'épisode précédent, dans ses tenues, en fait, puisqu'il s'habille différemment selon qu'il est le Walter White qu'on a connu au début, et plus il devient Heisenberg, et plus sa tenue le suit, et notamment, évidemment, l'accessoire définitif qui est le chapeau, qui va vraiment, le chapeau et les lunettes de soleil qui marquent le personnage de White.
Sauf que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, moi je trouve que ça colle vraiment bien, c'est-à-dire que, en gros, le personnage de Walter White, il est présenté comme un dork, en fait, comme on dit en anglais, quoi, c'est-à-dire un mec un peu geek, un peu comment dire, pas vraiment pas cool, quoi. En fait, il est habillé de façon assez ringarde, et même le personnage d'Heisenberg, finalement, en fait, visuellement, il est un peu ringard quand même, en fait. C'est-à-dire que la façon dont il est représenté par les autres et vu par les autres, c'est ce qui le rend vraiment mythologique. Mais lui, il a son petit chapeau un peu, tu vois, un peu fripé comme ça sur la tête. Et du coup, en fait, c'est la notion même de se plonger dans un rôle, en fait, pour lui, qui est très intéressante. Et ça, on parle pas de l'acteur forcément, mais je pense que c'est important de pointer du doigt que c'est déjà le cas même pour l'acteur de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme il était connu pour Malcolm et qu'il se retrouve en fait à jouer un personnage qui est complètement différent, même si on rentre par la porte d'entrée, c'est le personnage de Ringard, tu vois, ce qui était le père dans Malcolm, bah, en gros, il y a une évolution dans la série par rapport à son personnage aussi. C'est-à-dire que lui-même, son personnage joue un rôle. Et le rôle, c'est Heisenberg. Et d'un seul coup, ça pourrait être totalement Ringard, mais ça fonctionne parce que justement, en fait, il impressionne avec des choses que dans les éléments, comme j'en parlais la dernière fois, dans l'autre épisode, c'est des éléments en fait, que lui connaît et maîtrise, la chimie, ce genre de choses, etc. etc. Donc d'un seul coup, même lui se retrouve plus fort et plus puissant parce qu'il contrôle ces éléments-là. Et ça, c'est pour ça que, oui, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dans la perception du spectateur, mais je pense pas dans le fonctionnement du personnage, justement. Je pense que c'est plus un truc de... il a parfaitement conscience qu'il est en train de jouer un rôle. Et en fait, quand il va rencontrer des barons, quand il va rencontrer et qu'il doit se mettre en mode, et y compris avec les potes de Jesse, hein, qui sont un peu des ratés aussi, en fait, qui font quand même qui consomment de la drogue et qui sont des trafiquants, quoi, des petits trafiquants, en fait, il les impressionne et c'est là où ça marche en premier, et puis après, ça marche sur les autres, quoi. Mais il est totalement dans un rôle, et presque, on a envie de dire, le rôle de l'image de virilité que tu parlais quand tu parlais de Hank, en fait, qui va transfuser dans son personnage à lui.
Et il y a un truc intéressant qui a été fait pendant la série. Alors, je crois que c'est dans la 4e saison où les créateurs ont décidé de faire un flashback dans lequel ils nous le montrent jeune. Lorsque lui et Skyler, sa femme, s'apprêtent à acheter la maison que arrivé à ce moment-là, on connaît bien, en fait. Et donc, on découvre qui ils étaient avant de devenir ces gens dans une impasse, puisque donc les premiers épisodes nous montrent clairement un couple de middle class qui est dans une impasse financière, sentimentale, professionnelle, etc. Donc, avant d'être dans l'impasse, qui ils étaient. Et en fait, si on nous avait montré d'emblée ce jeune couple en train d'acheter une maison, bon, on les aurait pris, on va dire, de façon neutre, quoi. Ben voilà. Ils sont jeunes, ils en veulent, ils veulent croquer la vie à pleines dents, etc. Sauf que, ayant déjà assisté à à la révélation de l'hypocrisie du personnage de Walter White, puisque au fur et à mesure, on épluche et on s'aperçoit que derrière le brave gars un peu soumis, il y avait une brute qui sommeille, et ben, on a tendance à lire cette scène de flashback à cette lumière-là. Et en fait, il nous apparaît comme un connard lorsqu'on le découvre jeune et qui dit à sa femme qu'ils vont pourquoi se prendre une maison comme ça alors qu'ils vont réussir, ils pourront se payer bien mieux, etc. Et on se dit oulala, tu vois, c'était déjà mal engagé, sauf que on l'aurait pas vu si on nous avait pas montré déjà 4 saisons.
Effectivement. Et alors un des premiers à faire les frais de cette attitude, de cette transformation négative, on l'a dit, c'est le personnage de Jesse Pinkman.
So you do have a plan. Yeah, Mr. White. Yes, science.
Ouais, yes, science. Alors, j'ai pas mis les bitch qu'il dit tout au long de la série. Hein. Et donc, Jesse, c'est le partenaire de Walter White. C'est son ancien élève. Walter, c'est son professeur de chimie au lycée. C'est un toxicomane, mais il est issu d'une famille de classe plutôt moyenne. Hein. Il a d'ailleurs été rejeté par sa famille en raison de sa toxicomanie. Et on en parlait tout à l'heure, il porte en lui, même si à la base c'est lui le premier petit caïd que Walt va rencontrer, il porte une innocence en lui.
Bah, c'est-à-dire, en fait, il est le pousse au crime presque, en fait, de Walter White, mais pas de manière détournée, puisqu'en fait, c'est lui qui le fait rentrer dans cet univers-là. Mais c'est vrai que la première fois où il est présenté, il est déjà en train d'essayer de s'échapper, il n'y arrive pas, et c'est complètement improbable. En fait, il y a un truc de complètement d'être raté, en fait, de montrer qu'il est raté, qu'il ne sait même pas faire ça, en fait. Donc, c'est ça qui le rend aussi assez attachant, c'est que c'est quelqu'un, je pense, parce qu'il aime la drogue, parce qu'il est tombé dedans, en fait, ça devient son univers, entre guillemets. Mais il a cette espèce de fonctionnement, de je m'en foutisme, en fait, de la vie, parce qu'il a 20 ans, 25 ans, je sais pas, à ce moment-là. Et que, en fait, elle est devant lui, quoi. C'est-à-dire qu'il se pose pas forcément plus la question que ça, quoi. Il représente, en fait, un peu un truc qui existe aux États-Unis, qui est le white trash, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment la jeunesse un peu paumée des années 2000, qui a beaucoup émergé à cette époque-là, quoi. Mais c'est toute la force de la série, de prendre, en fait, des personnages qui pourraient être des archétypes, qui existent, en fait, de manière dans des communautés, etc., et en fait de les transformer justement en quelque chose d'un peu plus humain, vivant, et non pas juste une espèce de statistique, en fait, une espèce de voilà. Et
de jouer sur notre a priori vis-à-vis de ces images-là,
fait,
pour justement nous amener à nous questionner dessus, parce qu'il y a un double sens aussi dans le titre de la série, qui est Breaking Bad, puisque l'expression, d'après Vince Gilligan, elle veut dire
partir en vrille,
mettre l'enfer, to raise hell, ouais. Littéralement. Mais break bad, to break bad, c'est aussi devenir délinquant.
Donc c'est mal tourné.
Et en fait, on n'est pas sûr au début de qui on parle par rapport à ça. Mais le fait est que Jesse Pinkman, c'est lui qui a mal tourné, c'est lui le délinquant. C'est pas lui qui va amener l'enfer. Il va le subir, en fait, pendant cette série-là. Ce qui le caractérise dans les premières fois, on le voit, comme tu parles de white trash. Moi, je parle aussi, je pense que c'est important, la question de l'immaturité. C'est au fond quelqu'un qui n'a rien compris aux règles fondamentales de l'existence, quoi, et qui se laisse complètement porter par ses émotions, ce qui le met d'ailleurs complètement en porte-à-faux avec Walter White, qui, il ne faut pas l'oublier, n'est pas juste un scientifique brillant, c'est aussi un calculateur. C'est quelqu'un qui, effectivement, sa vision de la chimie et la passion qu'il a pour la chimie, c'est pas juste qu'il admire la beauté de la création du monde, c'est qu'il aime bien que les choses soient bien rangées et bien à leur place, quoi. Il y a un côté un peu contrôle fric dans ce truc-là. Et ça en fait un personnage assez froid. Il y a un personnage dont on parlera certainement qui est Gus, qui est donc un tueur froid pour le coup. Il y a, dans mon souvenir, un moment dans la série où Gus se laisse aller un peu de poésie, c'est lorsqu'ils sont en train de manger ensemble, et il dit à Walter, qu'est-ce qui fait que lorsque je mélange tous ces ingrédients, il y a un plat qui me renvoie directement à mes souvenirs d'enfance, et c'est la première fois où on voit ce type se laisser aller à quelque chose d'un peu humain. Et là, Walter White le rembarre en lui balançant que de toute façon, c'est juste parce que ses neurones ont été activés par tel et tel composé chimique.
Retour à la chimie.
Voilà, l'autre en face qui se targue d'être le personnage le plus froid de l'univers, de se dire, mais c'est quoi cette machine que j'ai en face de moi, quoi. Et Jesse, c'est l'antithèse de ça.
C'est la spontanéité. Voilà. Il va faire des choses, il sait pas très bien pourquoi il les fait, mais voilà. Il y va.
Mais parce qu'il est soumis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a c'est un vrai personnage soumis. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, ça, encore une fois, à jouer, à écrire, parce que, mine de rien, tu peux très très vite en faire un chouineur, quelque chose de très très détestable, et pourtant, en fait, tu es en empathie avec lui. Moi, Aaron Paul, c'est pas le meilleur acteur au monde, hein, je vais être honnête, je pense qu'il était bien pour jouer ce rôle-là, mais voilà, c'est vraiment l'écriture qui le transforme, moi, je trouve, ce personnage en personnage. C'est très fin, et par exemple, tu vois, dans la saison 5, quand il est pris en cage, enfermé, et qu'il arrive même pas à se sortir de cette situation, en fait, alors que c'est quand même, il a évolué, en fait, entre la première saison et la saison 5, et normalement il a commis certains crimes qui devraient lui permettre, en fait, de comment dire, au moins un tout petit peu essayer de se battre, si tu veux, pour sortir de la situation quand il est pris par les néo-nazis là, les white suprémacistes là, pour et qu'il est enfermé dans une cage
pour qu'ils préparent de la mettre
pour eux. Merci, voilà. Tu te dis, voilà, normalement, tu t'essayes de te sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre, ouais. Et là, lui, il se laisse presque totalement faire, quoi.
Mais il est sous leur emprise, hein. Il est brisé psychologiquement parce que Walter a fait un travail de sape en amont. Mais t'as dit un mot qui est très important par rapport au personnage de Jesse, c'est que la fin de la série, ça correspond à sa libération. Finalement, que ça soit physique, parce qu'il arrive à sortir de cette cage dans laquelle il était enfermé, mais aussi symbolique, parce qu'il est libéré du poids de Walt, qui était cette relation toxique qui le tirait vers le bas en permanence.
Du mauvais père, puisque donc, effectivement, assez vite dans la série, il nous est présenté comme un enfant clairement abandonné. Enfin, ses parents le mettent littéralement à la porte de la maison qu'il occupait, la fameuse maison de sa tante, au fond, sans se préoccuper de ce qui risque de devenir. Et ils savent très bien qu'il va de toute façon mal tourner vu qu'il est un fichu de se prendre en charge. Et en fait, il va se créer des parents de substitution dans la double figure de Walt White et Gus, en fait. Il y a tout un passage, justement, où les deux parents vont se disputer la garde de Jesse, quoi, et de savoir lequel des deux il choisira, celui qui a le meilleur appartement ou celui qui...
Et alors, il y a juste un truc, en fait, à rajouter, je pense, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect tragique du personnage, de l'aspect soumission, etc., etc., mais je pense qu'en fait, il y a un humour noir, en fait, dans Breaking Bad, qui est vraiment ramené par le personnage de Jesse. Pas l'humour en soi, mais en fait la compréhension que ça peut être des fois une comédie noire. C'est-à-dire qu'en gros, dès la première saison, je crois que c'est dans la première saison, à un moment donné, quand ils doivent se débarrasser d'un cadavre, en fait, il se dit, bon, je vais utiliser ma baignoire, et d'un seul coup, en fait, il fout le bordel, et la baignoire, elle se met à fondre et à exploser. Et c'est glauque, mais c'est un peu drôle, en fait, quand même. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a les personnages qui sont avec lui, qui sont deux crétins congénitaux, un peu, quoi, mais qui ont quand même... Ils sont quand même cool et gentils, tu vois, si tu veux, avec lui, et tu sens que c'est des vrais amis. Et tout ça, il y a un jeu de comédie qui est, je trouve, plus prononcé à travers ce personnage-là que tous les autres persos de la série. Parce que, et je pense que c'est important de le dire, parce que même si c'est une figure tragique au bout d'un moment, etc., etc., ça participe aussi de sa bonté. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça participe de la très sympathique que tu as pour lui. Et du côté, vivant, en fait, du personnage, et qu'il fait sortir de l'archétype qu'il pourrait être, quoi.
Oui, puis comme le disait Clemens dans le premier épisode, le nom Pinkman nous renvoie au rose qui, dans la série, représente effectivement l'innocence, quoi. Donc, et elle est vraiment mise à mal dans toutes ces saisons, l'innocence de Pinkman, quoi. On le voit régulièrement, donc oui, se battre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour sortir de cette condition, et rechuter inexorablement, parce que c'est son rapport avec Walt au-delà du toxique. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que pour le coup, Aaron Paul fait un bon boulot, justement, dans la façon avec laquelle il transforme son personnage au gré de la force que la série lui donne. C'est-à-dire que quand il est soumis, il est effectivement totalement... c'est une serpillière, quoi. C'est pas possible d'être aussi bas. Et en même temps, quand il sort de sa désintox, qu'il a enfin l'argent pour se prendre en charge et qu'il décide de racheter la maison de sa tante sans prévenir ses parents, il y a une scène quand même, voilà, clé dans laquelle les parents le voient revenir en se disant mais qu'est-ce qu'il vient faire, il vient refoutre la merde dans notre vie, quoi. Et lui de sortir tranquillement sa clé, de rentrer dans la maison en mode vous n'existez plus à mes yeux, quoi. Il le joue, je pense, de la bonne façon, c'est-à-dire que
il est bon pour le rôle. Ouais.
On sent le gars qui a guéri de quelque chose à ce moment-là. D'ailleurs, j'étais presque étonné en me disant mais comment ils vont faire pour le refaire chuter, et quel sale coup on va encore lui réserver pour le faire tomber, quoi.
Ouais, ce pauvre Jesse, il s'en prend vraiment plein les dents. Et c'est pas le seul. Un autre personnage en première ligne face à tout ce que peut faire Walter White, bah c'est Skyler, sa femme.
But you know what, Walt? Someone has to protect this family from the man who protects this family.
Et ça, c'est le rôle de Skyler. Hein. Elle le résume très bien en une phrase. Voilà, Walt n'arrête pas de dire qu'il fait tout ça pour protéger sa famille, et au final, il les met dans une situation, une situation terrible.
Moi, je trouve que c'est un excellent personnage. Vraiment, il y a un truc de comment dire. C'est-à-dire que c'est encore une fois, mais c'est la réussite de cette série, hein, c'est d'arriver à écrire des personnages qui sortent un peu des cadres, habituels. C'est-à-dire que on va dire que c'est un personnage de femme forte, mais en général pas du tout comme c'est prévu dans les séries, en fait. C'est-à-dire ou dans les films, c'est pas comme ça que c'est entendu, quoi. C'est-à-dire que parce qu'elle est présentée comme une femme au foyer, enceinte, qui ne fait rien de ses journées, mais en tout cas n'a pas de travail ou quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'elle qui a abandonné son travail pour sa famille. Et ça, en général, c'est quelque chose qui est pas forcément vu comme en tout cas c'est plus vu comme un personnage soumis qu'un personnage fort. Et justement, en fait, c'est exactement l'inverse, parce que elle essaye d'être maître de son destin, en fait, vis-à-vis de la situation. Elle est aussi intelligente que Walter, même si en fait elle en fait pas la démonstration à travers des connaissances encyclopédiques ou des procédés, mais c'est quelqu'un qui a parfaitement compris elle sans elle, en fait, il y aurait pas 5 saisons, en fait, parce que quelque part, en fait, ce que j'entends par là, c'est que Walter se serait fait choper 300 fois avant. En
mais
fait.
C'est elle qui gère toute la logistique. Hein. Voilà, on en revient aux questions de qui s'est appelé corvée à la maison, ce travail invisible qui n'est pas valorisé, mais même dans du trafic de drogue, finalement, c'est important de faire la compta.
Mais ce qui est important aussi, enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait de montrer un personnage qui, et c'est la phrase que t'as pointé du doigt, en fait, pour la présenter, c'est un personnage, en fait, qui et c'est ça aussi qui le rend humain, se pose des questions sur son couple et se pose des questions sur ce qu'elle peut se permettre, en fait, par rapport à ce que son mari est en train de faire. C'est-à-dire que elle le questionne, lui se questionne jamais sur le fait qu'il fait ça pour sa famille. C'est-à-dire que pour lui, c'est le motif principal, et après, c'est le raisonnement pour foutre le bordel, quoi. Mais elle, en fait, justement, elle le questionne tout le temps et elle le ramène à ça. Et du coup, t'as des moments où tu te dis, mais en fait, tu te rends compte que tu restes avec un type qui est en train de... Voilà, et sauf que tu te rends compte qu'elle s'en rend pas forcément compte totalement, puisqu'elle est de l'extérieur jusqu'au moment où ça arrive, en fait, et ça la frappe, quoi. Et voilà, il y a aussi ce truc avec sa relation avec sa sœur qui est quand même assez étrange, en fait, que je trouve qui est aussi une belle... ça démontre d'une belle écriture, parce que en fait, sa sœur, elle est quand même un peu particulière, quoi. Elle est un peu, elle est l'opposé de ce qu'elle est aussi. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, elle est complètement soumise dans son couple à Hank. Et en fait, le seul moyen de s'échapper à elle, c'est d'être un peu klepto et de foutre le bordel comme ça. Et ça crée une espèce de relation où qui, pour moi, semble très véridique. C'est-à-dire deux sœurs qui se connaissent depuis toujours, mais qui sont fondamentalement différentes et qui abordent les choses de manière fondamentalement différente et qui s'aiment, mais qui en même temps ne se comprennent pas vraiment, en fait. Et donc voilà, ça crée toute une, vraiment des couleurs, en fait, sur le personnage de Skyler que je trouve hyper intéressante. Et c'est presque hallucinant, je trouve, en fait, la shitstorm que l'actrice s'est prise sur la gueule, en fait, avec les fans à l'époque, quoi. Parce que c'est, déjà, c'est confondre un personnage avec l'actrice. Donc ça, c'est le premier problème, on va dire. Mais c'est surtout, en fait, l'accuser, par exemple, un des trucs qui a été mis en avant, c'est le fait qu'elle trompe Walter. Mais la question, en fait, que les fans n'ont pas l'air de se poser à ce moment-là, c'est mais qui trompe qui à la base, en fait? Parce qu'elle, en fait, elle accepte de se dire, bon, ben, en fait, je vais céder à une relation avec, c'est son boss, je crois.
C'est son boss, voilà. Ouais, Beniki.
Voilà, qui est bon, qui est un pauvre gars, quoi, un peu, voilà. Un vieux beau, quoi, qui est pas hyper, enfin évidemment qu'il est pas du tout charismatique quand tu le compares à Walter White et ce qu'il est devenu surtout, mais peu importe. En fait, c'est quand je parle de maîtriser son destin, c'est ça la logique. Et en fait, en gros, même si ça peut sonner comme une revanche, c'est, et en admettant que ce soit un crime, puisque ce n'est pas un crime, quoi, c'est quand même rien à côté de ce que Walter White lui fait subir à elle et à sa famille, quoi.
En fait, voilà, le fait est que les gens réagissent parce que, effectivement, surtout dans la culture américaine, des séries, c'est un truc que tu fais pas, voilà.
L'adultère,
ça passe clairement pas. Les politiciens sont régulièrement en train de faire des mea culpa à genoux à la télévision, quand, voilà. Mais surtout, ça arrive à un point clé de l'intrigue. Elle ne le fait pas n'importe quand. Le personnage de Skyler, il est intéressant parce que plus dans la culture américaine que dans la culture européenne, la famille est considérée comme une entreprise. Et en fait, on est partenaire pour faire tenir cette entreprise. On la voit à l'image en train de faire la comptabilité de son couple. Et ça c'est, à ma connaissance, on ne voit pas souvent ça dans les séries américaines, alors que ça se fait régulièrement chez eux. Et du coup, elle a besoin, elle, de se reposer sur son partenaire et sur cette question de confiance. En fait, ce qu'elle attend de lui depuis le début, c'est qu'il soit honnête. Pas qu'il fasse les choses bien ou mal, juste qu'il soit honnête, et refuse totalement cette transparence et cette honnêteté. Et donc, lorsqu'elle finit effectivement par être mise devant le fait accompli de ce qu'il est devenu, bah, sa façon à elle de lui faire comprendre ce que c'est que la trahison qu'elle a vécue, c'est ça. Elle va coucher avec son patron, elle rentre chez elle et elle lui dit « J'ai couché avec mon patron », en mode démerde-toi avec ça, quoi, tu vois. Si c'est la relation de travail de couple qu'on va avoir, ben ça ressemble à ça.
Et d'ailleurs, par la suite, elle continue à s'occuper de l'argent du lavoto. Et c'est elle qui s'occupe de tout le blanchiment. Après, je pense que si elle est aussi peu appréciée des fans de la série, tout du moins au début, c'est un peu ce qu'on disait dans le premier épisode, hein, c'est que c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond au début. C'est elle qui va toujours... Dans les premières saisons, surtout
le mettre en difficulté,
voilà,
oui.
Le mettre en difficulté en lui rappelant que, bah, quand même, enfin, tu veux être un baron de la drogue, mais t'as deux enfants, tu as une épouse.
Non, mais avant de savoir qu'il est un baron de la drogue, elle le met en difficulté simplement du fait qu'elle l'est, en fait. C'est-à-dire qu'elle attend qu'il fasse des choses normales dans le couple, et sans savoir que le gars, il est à l'autre bout du désert en train de préparer de la mettre. Quoi.
C'est donc, ça, et je pense que le public avait sans doute de l'antipathie pour elle, parce que justement, elle nous empêche de savoir ce qui va se dérouler du côté de la drogue, de là où c'est sulfureux et intéressant. Mais dans les dernières saisons, je pense que le rapport qu'on a à ce personnage-là évolue aussi, parce que justement, Walt est devenu tellement, tellement affreux, tellement monstrueux que Skyler, on finit par se ranger de son côté en disant « mais elle a raison ».
Alors, je ne sais pas si les spectateurs ont vraiment réfléchi comme ça. Pour le coup, en fait, d'après ce que j'ai compris, l'actrice même, Anna Gunn, en fait, a écrit un article, en fait,
dans
le New York Times, c'est ça, où en gros, elle fait référence à, je crois, « character issue ». C'est-à-dire, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle compare les daddy issues et les mommy issues qu'on peut avoir, c'est-à-dire les problèmes avec ton père ou avec ta mère, relationnels, quoi, avec les problèmes relationnels que tu peux avoir avec un personnage de fiction. Et ça, c'est plutôt, c'est plutôt malin, parce que c'est vrai qu'en fait, en gros, elle pointe du doigt une problématique qui est que c'est un putain de personnage de fiction. C'est-à-dire, à un moment donné, faut sortir de ce cadre. On en avait parlé dans l'épisode sur Game of Thrones, mais il faut sortir de ce cadre, en fait, de... c'est pas une relation, toi, le spectateur, avec ce personnage-là. C'est des personnages entre eux. Donc, du coup, c'est en ça que comment dire, je pense qu'on était... Alors, peut-être pas dans les prémices, mais en tout cas, c'est devenu plus flagrant aujourd'hui avec Internet, beaucoup plus encore qu'à l'époque, mais dans une vraie... première représentation, en tout cas, première vague de représentation de la toxicité de certains fans, quoi. Mais moi, justement, je trouve que c'est un personnage, je pense que, justement, c'est un personnage qui révèle son intelligence. Par exemple, tu parlais du fait qu'elle utilise le comment dire, le garage auto pour blanchir l'argent. Mais ça, c'est une idée à elle. Et c'est une idée à elle, en fait, parce qu'elle connaît son mari. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que, comme elle connaît son ego, elle joue sur son ego en disant: on te fait racheter ce truc-là, parce que l'autre idée, je crois que c'était un laser tag ou un truc comme ça, parce que ça faisait marrer Jesse. Elle disait, mais ça n'a aucune cohérence. Pourquoi est-ce qu'un mec comme Walter White irait acheter un laser tag, alors que le truc auto, c'est dans son ego, c'est sa revanche.
Il y a travaillé et maintenant, c'est lui le patron.
Voilà. Et donc, elle le connaît. C'est-à-dire qu'en fait, elle le montre, et c'est ça son intelligence. C'est qu'en fait, elle le connaît par cœur. C'est ce qui rend le c'est ce qui est aussi, encore une fois, là où c'est très bien écrit, quoi. C'est-à-dire que, en gros, il y a un vrai questionnement de c'est quoi un couple, comme l'a pointé du doigt Rafik sur l'aspect organisationnel, mais aussi c'est quoi un couple, en fait, quand on passe 20 ans, 30 ans dans sa vie ensemble, quoi.
Et d'ailleurs, le moment où elle rend Walt complètement fou, c'est quand il descend dans la cave de la maison où il a caché des sommes d'argent très importantes. Et là, il trouve plus un seul billet parce qu'en fait, elle a pris cet argent et elle l'a donné à son amant pour que il puisse
sortir d'une mauvaise situation.
Ouais, ouais. Sortir d'une mauvaise situation financière. Et en fait, elle va taper là où le bas blesse, justement.
Et c'est une manière de dire, c'est pas que ton argent. C'est aussi ça le truc, en fait. Et c'est ça qui rend le personnage, je trouve, justement fort. C'est-à-dire qu'en gros, ça la sort. Et je pense qu'encore une fois, la représentation vitalité de sa sœur lui permet aussi de montrer qu'elle pourrait être soumise comme sa sœur, mais elle ne l'est pas. Parce que sa sœur, en fait, si elle va voler, c'est parce qu'elle est avec la représentation ultime de la loi, quelque part. Donc elle se dit, putain, il faut que j'arrive à me sortir de ce truc. Alors son moyen, c'est de voler des trucs en espérant presque se faire choper. Alors que l'autre, en fait, elle s'en fout. C'est-à-dire, elle dit, bah, moi, je suis dans cette famille, tu fais ça pour moi, bah, ça, c'est à moi aussi. Donc, en gros, et ça représente une certaine force, en fait, de caractère qui surtout quand on arrive à un stade où le personnage de Walter White est quelqu'un qui est vraiment dangereux et violent, quoi.
Elle a besoin qu'on lui dise la vérité, ou en tout cas que les personnages reconnaissent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'avant que la confrontation avec White soit vraiment consommée, ça passe par sa sœur, parce que sa sœur lui offre un diadème, je crois, qu'elle a volé, et donc lorsqu'elle va le ramener à la boutique, elle manque, elle, de se faire arrêter, et sa sœur refuse de reconnaître qu'elle est à l'origine de ce drame, et elle va se brouiller avec elle jusqu'à ce que sa sœur reconnaisse qu'elle l'a fait. Et donc ce qu'elle attend aussi de Walter White, c'est qu'il le reconnaisse, ce qu'il fera dans l'épisode final. Il faut quand même attendre la cinquième saison pour qu'il lui dise oui, j'ai pas fait ça pour vous,
et j'ai fait ça pour moi. Oui. Alors, on parle de la sœur de Skyler, et sa sœur, bah, elle est mariée à un personnage, à un autre personnage qui est fort antipathique au début, puis qui évolue, qui se dévoile au fur et à mesure des saisons. C'est le personnage de Hank Schrader.
You want me to beg? You're the smartest guy I ever met, and you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago.
Interprété par Dean Norris. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est une scène qui est très triste, puisque c'est la scène de l'exécution de Hank.
C'est en fait, et puis ça arrive à un moment donné où t'as pas du tout envie que ça arrive, en fait, parce qu'il y a une vraie forme d'injustice, en fait, là-dedans, quoi. Parce que ça a beau être l'alpha male, le héros d'action. J'allais dire le héros d'action des années 80, mais pas tout à fait non plus, parce que, effectivement, quand on te le présente, c'est un peu le personnage qui fait chier le héros en général dans la série, mais aussi dans les films des années 80, et qui finit par se prendre une baigne à la fin en rétribution, quoi. Donc ça pourrait être un cliché total. C'est-à-dire que vraiment, voilà. Et l'acteur lui-même s'est retrouvé dans tellement de rôles de ce type-là que c'était finalement assez intéressant d'aller le chercher et de casser ce perso et de lui montrer, en fait, ses failles. Et c'est ça, moi, qui, je trouve, le rend le plus en plus attachant. Il y a une scène où il manque vraiment de se faire tuer, quoi. C'est-à-dire qu'il tombe dans une espèce de guet-apens, il s'en sort à in extremis, mais tout le côté burné du personnage, en fait, en prend parce qu'il se rend compte lui-même à ce moment-là que c'est juste un coup de chance. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu y passer, en fait, à ce moment-là.
Et il en sort traumatisé.
Et il en sort totalement traumatisé, mais il ne doit pas le montrer. Mm. Parce qu'en fait, il a cette persona, en fait, qu'il met en avant avec son partenaire.
Bah, c'est un agent des stupes, il enquête sur...
Voilà, et en gros, c'est d'un seul coup, on se retrouve dans un ascenseur ou un truc comme ça, que d'un seul coup, il a une crise d'angoisse, il est brisé. Et même toi, en tant que spectateur, au début, tu ne comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire que tu te dis, mais c'est quoi exactement le problème? Est-ce qu'il souffre de quelque chose? Est-ce qu'il a une maladie? Et en fait, c'est une maladie psychologique. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est affecté. Et c'est, moi, j'avais trouvé ça assez bien fait parce que je me disais, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on voit très rarement sur ce type de personnage-là. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui, quand on arrive à un certain âge, justement, et ce genre de perso-là, cette espèce de représentation de la masculinité imposée qui doit montrer, etc. Évidemment que ça cache en fait des failles, évidemment que ça cache une armure en fait qu'il faut mettre en avant, et eux te montrent vraiment ça, en fait, l'envers de la problématique, quoi. Et oui, c'est un personnage qui devient attachant à cause de ces éléments-là, en fait, et qui devient attachant parce qu'il n'est pas aussi malin, effectivement, comme il le dit, que Walter White, mais par contre, il finit par comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il finit par vraiment avoir un rapport à ça, que, par exemple, le personnage de sa femme ne voit pas forcément, que tous les agents de la DEA n'arrivent pas à comprendre, et en fait, il le comprend, probablement parce qu'il est à côté de Walter White, mais aussi parce que, voilà, c'est quelqu'un qui connaît ce terrain-là, quoi.
Il y a aussi le risque quand même constant qu'à un moment donné, on lui attribue une grande stupidité, parce qu'il est quand même à côté du... Enfin, passer 5 saisons près du personnage sur lequel tu es en train d'enquêter, c'est pas vraiment la meilleure façon de faire comprendre au spectateur que tu es le meilleur enquêteur du monde.
D'ailleurs, toute l'ironie du moment où il connecte enfin les points, où il se rend compte que c'est son beau-frère qui est Heisenberg, il se rend compte de ça, il est sur les toilettes. C'est quand même un passage, c'est la résolution d'enquête la moins sexy du monde. Et il est en train de lire un bouquin, et là, d'un coup, Eureka.
Il connecte une conversation qu'ils ont eue, en fait, où même d'ailleurs, en fait, à ce moment-là, le personnage de Walter s'est plus ou moins rendu, mais tout en sachant qu'il ne le faisait pas vraiment, puisque tout le principe, en fait, c'est ce qu'on avait dit dans cet épisode, ou l'autre épisode, je ne sais plus, de dire, voilà, c'est comme c'est une espèce de... Comme il le voit, comme il le prend quand même de haut, Walter White, il ne pouvait pas se dire à une seule seconde. Lui-même a péché par ego, on va dire, là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se dire une seule seconde que son beauf pouvait être, en fait, le plus grand baron de la drogue. Parce que, justement, tous les profils de baron de la drogue, et d'ailleurs, c'est aussi l'un des, comment dire, des trucs très intéressants de la série, c'est que tous les autres profils de baron de la drogue, c'est des acteurs mexicains comme Danny Trejo, ou alors, comment il s'appelait cet acteur là qui jouait beaucoup des militaires dans les années 90, quoi. Mais en fait, c'est ou alors il y a Salamanca, c'est ça le personnage, tu vois, c'est Gus Fring, c'est des personnages, en fait, pour le coup, très typés, très archétypaux. Et lui, il ne voit ça que sous ce prisme-là aussi. Donc, en fait, un Walter White ne pouvait pas être le baron de la drogue. C'est pas possible.
Ouais, lui, en fait, il joue clairement un rôle. Hein. On nous le montre, d'ailleurs, justement, tu parlais de l'ascenseur tout à l'heure, quand il est dans l'ascenseur et qu'il a ses crises d'angoisse. Voilà, c'est quand il est en coulisses. Là, personne ne doit le voir à ce moment-là. Mais il y a chez ce personnage une incapacité à voir que tout le monde, en fait, autour de lui est en train de jouer un rôle. C'est aussi ça qui le rend aveugle par rapport à Walter White. Et dans son obsession d'enquêteur, va se passer un truc intéressant, encore une fois lié à la chimie, c'est que tous ces éléments épars qu'il n'arrive pas à mêler les uns aux autres vont finir par se cristalliser, en fait, peu à peu. Et ça nous mène, en fait, à son obsession dans la saison 4, je crois, lorsqu'il sort de l'hôpital, pour les minéraux, où il se met à collectionner des minéraux, en fait, voilà.
Des roches.
C'est ça. il est en train d'essayer de remettre les molécules, en fait, dans le bon sens, quoi, parce que tout ça, finalement, c'est, les rôles qu'on joue dans la vie sont des composantes d'éléments, quoi. Lui, il joue un peu le rôle du feu ardent, hein, dans les premières saisons. Elle est un peu là pour cramer les fesses de White, quoi.
Mais si ce n'est que je pense que le rôle qu'il joue, comme tu dis, c'est effectivement un rôle, mais lui ne le voit pas comme un rôle. Mmh. Je pense que lui se voit comme justement le parangon de la justice et de l'honnêteté.
Ah non, mais totalement.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne voit pas que. C'est parce que lui-même pense qu'il ne joue pas un rôle, c'est pour ça qu'il ne voit pas que les autres jouent un rôle. Voilà.
Mmh. Ouais. Et donc, ça, alors clairement, il n'est pas très fin psychologiquement. En même temps, il correspond aussi à quelque chose qui, je pense, est vraiment là dans cette problématique de castration sur laquelle la série a beaucoup joué par rapport au personnage de White, hein. C'est un truc on attribue au père de famille un rôle justement qu'il doit mener, et il doit être ce personnage exubérant, conquérant, n'hésitant pas justement à se salir les mains, à être finalement violent et têtu et borné, etc. Et c'est pas un mauvais mari, il est quand même préoccupé par sa femme. Il essaie tu sens qu'il est complètement démuni par rapport à sa problématique de kleptomanie, et ça, voilà, il sait pas comment faire. Il va discrètement demander des conseils, et donc il essaie quand même de faire les choses bien, mais de correspondre à une image effectivement de virilité conquérante dont on lui a toujours présenté que c'était ça la réussite d'un homme, c'est ça, quoi. Donc il le fait, il joue ce rôle.
Moi, je ne sais pas si c'est un bon mari, mais en tout cas, c'est
il essaye.
Je pense, oui, il essaye peut-être, mais c'est en tout cas quelqu'un qui passe complètement à côté des choses.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Il y a cette scène très savoureuse où il marche à côté de Walt qui, je ne sais plus, va rentrer dans sa voiture et qui tient un gros sac à la main. Il dit, il y a quoi dedans? Et Walt lui dit, un demi-million de dollars. Mmh. Et il est très sérieux. Et évidemment qu'on ne le prend pas du tout au sérieux et n'y croit pas un instant.
Mais ça, c'est parce qu'en fait, en gros, pour le coup, Walter White a cette intelligence-là. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien que comme l'autre le prend, il joue sur le fait que l'autre le prend pour un crétin, c'est-à-dire que
ou le lavette,
pour son beauf, quoi, une lavette, voilà. Donc du coup, il peut très bien dire les choses de manière assez, voilà, il y a une connivence avec le spectateur aussi à ce moment-là, puisque le spectateur sait que c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment ce jeu entre les deux personnages qui fait que pour moi, justement, ça valide l'idée que en fait, il peut passer 5 saisons sans forcément se rendre compte qu'il est à côté du plus grand baron de la drogue, quoi.
Alors, à propos de Baron de la Drogue, il y en a un autre qui a un petit peu plus de finesse psychologique que ça, c'est le personnage de Gustavo Fring.
You are a wealthy man now. And one must learn to be rich. To be poor, anyone can manage.
Gustavo, donc, c'est le grand patron de tout le marché de la meth au nord de la frontière mexicaine. Le directeur de la chaîne de restaurant Los Pollos Hermanos, qui lui sert de couverture. Et c'est un fin stratège. Hein. C'est un peu l'alter ego de Walt. Puisqu'ils partagent tous les deux. Leur relation ressemble presque à une partie d'échec.
Mmh. Oui, tout à fait. En fait, c'est le personnage... C'est presque l'idéal de l'idéal inconscient de Walter White, parce qu'évidemment Walter White ne se voit pas comme un criminel, mais au fond on réalise au fur et à mesure qu'il se révèle à lui-même comme étant fondamentalement un monstre criminel. Idéalement, il devrait tendre vers Gus. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'il soit probablement le premier à l'avoir grillé, puisque donc Gus a cette capacité à justement échapper à la justice, parce que finalement personne ne sait qui il est. Et lorsque White est censé aller à sa rencontre, il va dans ce restaurant. Il est servi par le patron du restaurant, qui est un monsieur tout à fait charmant et tout à fait quelconque, dont il se préoccupe peu, pour finir par s'apercevoir que que sa proposition de travailler avec ce baron a été refusée. Et il comprend pas, parce qu'il l'a jamais vu, ce baron, puisqu'il est attendu dans ce restaurant. Et donc voilà, mais il revient dans le resto, il réfléchit, et en réfléchissant, finit par comprendre, c'est le patron du restaurant, c'est-à-dire quelqu'un qui a sciemment choisi de jouer le rôle le plus insignifiant qui soit, le moins glorieux, quoi. Un Jesse Pinkman n'aurait jamais, pour lui, voilà, un baron de la drogue, il était dans une Cadillac vert pomme, avec des klaxons partout.
Alors que Fring, c'est le citoyen modèle, toujours propre sur lui, courtois, poli, gentil. En apparence, au moins.
Tout à fait, qui donne de l'argent à la police.
C'est sa couverture, voilà, tout simplement les Pollos Hermanos sont la couverture du trafic de drogue. Mmh. C'est un mec qui, pour le coup, jouer le rôle, c'est vraiment, c'est littéral.
Il l'a compris jusqu'au bout, donc ouais. C'est très clairement, c'est le meilleur politicien, on va dire, de la série. C'est pour ça que je dis que c'est une version idéalisée de Walter White. Mais voilà, mais le fait que Walter White l'ait vu, l'ait compris, c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue entre les deux. Parce qu'au moment où White le sollicite pour lui dire « Installez-vous à ma table, on va parler », à ce moment-là, en tant que spectateur, on ne sait pas si Gus va accepter de se révéler. C'est quand même un risque majeur qu'il prend par rapport à l'empire qui s'est constitué. Mais il reconnaît en White un alter ego, effectivement.
Il y a aussi ce truc, on parlait du fait que ce soit un stratège, hein, mais en gros, il y a ce truc qui est révélé plus ou moins plus tard dans la série, et en fait, c'est le passif de Gus, et en fait, sa relation avec son frère, et le fait qu'il a une vengeance en fait, qu'il met en place depuis 20 ans maintenant. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il attend vraiment... d'utiliser en fait Walter White pour justement attaquer la famille Salamanca.
Ouais, tout à fait.
Parce qu'en fait ils ont tué son frère de sang-froid 20 ans auparavant quand ils étaient en train de monter leur premier deal, quoi. Et en gros quelque part l'émotionnalité de Gus est vraiment sortie, elle est partie à ce moment-là, en fait c'est ce que tu comprends, mais tu le comprends bien plus tard dans la série. C'est-à-dire que en fait ce qui est assez intéressant, je trouve, avec ce personnage-là, c'est que, et peut-être à cause du comédien et du fait qu'il ait repris régulièrement ce type de rôle-là, Giancarlo Esposito, ça a créé un vrai archétype, pour le coup, de bad guy, en fait, de méchant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient assez régulièrement, l'espèce de baron méthodique, de grand criminel méthodique, froid, et voilà. Non pas que ça n'existait pas avant, hein, mais je pense que... caché derrière cette image de Monsieur Tout-le-Monde, c'est quelque chose que la série a extrêmement popularisé, et j'ai l'impression que c'est un peu la façon dont les méchants sont perçus aujourd'hui dans le polar et ce genre de choses. Et principalement, je pense que lui-même l'a joué plusieurs fois derrière Giancarlo Esposito. C'est un peu dommage parce que ça teinte un petit peu, je trouve, le personnage de Breaking Bad. Il y a aussi ce truc que j'aime pas trop, en fait, c'est la résolution du personnage, la façon dont il se fait... Parce que déjà, je trouve que c'est un peu une insulte à son intelligence. Peut-être que c'est... En tout cas, je trouve que les mécaniques du retour à l'émotionnalité qu'il pourrait avoir à ce moment-là, c'est-à-dire se laisser aller à sa vengeance qu'il a méthodiquement préparée pendant 20 ans, c'est déjà, je trouve, c'est pas forcément super bien écrit. Je trouve que c'est beaucoup de circonstances, en fait, pour arriver à cette scène, en fait, dans l'hôpital. Où les mecs placent une bombinette, tu vois, dans le fauteuil roulant du patriarche Salamanca, quoi. Et pour moi, ça confine au ridicule, en fait, parce que il y a ce truc de la violence dans Breaking Bad qui est quand même très très forte, parce que justement elle est très très ramenée à ce que les personnages perdent. C'est-à-dire dans ce sens-là, oui, il y a une logique tragique. Et dans ce sens-là, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec beaucoup de, comment dire, c'est-à-dire qu'un personnage meurt et tu souffres de cette perte. C'est-à-dire, c'est pas que la violence graphique, c'est pas que ça. Or là, pour moi, ce n'est que la violence graphique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, ce moment où le personnage sort de l'explosion, et ils essayent de te faire une espèce de petite surprise avec une révélation où il tourne la tête et en fait, il est cramé de l'autre côté, quoi.
C'est les maquilleurs de Walking Dead qui ont travaillé dessus.
Oui, bah voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il y a un petit côté zombie.
Greg Nicotero.
Voilà. Ouais. Et c'est un peu... ouais, je trouve ça un peu Z, quoi. C'est un peu ridicule, quoi. C'est-à-dire,
l'effet,
c'est un peu...
un peu too much parce que le personnage sort effectivement de la pièce.
Mais même l'idée, comme si en fait. C'est-à-dire, même l'idée, je trouve qu'elle est un peu, comment dire... c'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est regarder, c'est cool. La violence est cool. Et en fait, c'est pas le principe de la série, je trouve. Donc, du coup, c'est un peu comme la tête de Danny Trejo sur la tortue. Tu te dis, bon, c'est un peu.
Et en même temps, ça fait partie des images too much qui sont, à mon avis, résolument voulues par Vince Gilligan. Faut pas oublier que c'est un mec qui a bossé pour la série X-Files et
ouais,
tout.
C'est
un fan de gore, enfin de films d'horreur, etc. Mais il y a aussi il y a plusieurs fonctions, c'est-à-dire que il y a aussi l'idée de faire croire au public qu'il a survécu à ça, parce que a priori jusque-là on le considère comme quelqu'un justement d'invulnérable, et de nous montrer l'autre facette du personnage, parce que c'est clairement un double face qu'il est en train de jouer à ce moment-là, comme dans Batman, quoi. Donc il y a,
c'est
y a,
pas voilà. très subtil tout
c'est
ça.
Pas, hein. C'est effectivement pas très subtil, mais il y a des choses y a régulièrement dans la série qui refusent en fait explicitement la subtilité. Je pense que ça en fait partie, parce que cette explosion, elle a été notée d'après des témoignages de journalistes sur le tableau de bord du travail de la saison, alors qu'ils étaient même pas encore en train de terminer le premier épisode, mais il y avait déjà marqué boum à la fin, c'est-à-dire que voilà, ils savaient que Gus devait d'une manière ou d'une autre
devait sauter.
Clore, oui, et puis clore cette saison par cette explosion, donc il fallait une image forte.
Okay, I'm here. Et ben justement. Ça, c'est la cloche d'Hector Salamanca hein, qui ne communique que comme ça. C'est un ancien fondateur du cartel Juarez qui est désormais en fauteuil roulant, mais toujours respecté. On l'appelle Don Hector et qui communique avec une sonnette, notamment avec son neveu Tuco Salamanca qu'on voit dans les deux premières saisons de la série. Alors, si j'ai fait sonner la cloche, là, c'est aussi pour nous rappeler à l'ordre parce que cet épisode devait durer à peu près une demi-heure. On en est au double maintenant.
D'accord.
Je vous laisse à chacun un personnage à aborder pour conclure rapidement.
Moi, j'allais parler du personnage de Mike qui renvoie un petit peu à comment dire, encore une fois, ce que je disais dans le premier épisode sur Tarantino. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage de fixeur, de cleaner qui ressemble, enfin, pour moi, en tout cas, qui est dans cet archétype du personnage d'Harvey Keitel dans Pulp Fiction, quoi. Mais c'est-à-dire le type qui sait tout faire en fait pour cleaner, tu vois. Donc voilà, il y a en France, on a bon, là, ça va peut-être faire bondir Rafik la référence, mais on a Victor Nettoyeur dans Nikita, mais voilà, de Luc Besson. Mais en fait, ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que il y a son interprète Jonathan Banks qui a une espèce quand même de tête de droupi, tu vois, assez comment dire, voilà, mais qui je pense que t'aurais pas envie de le croiser, comment dire, malgré le fait qu'il est pas très grand, pas très comment dire, voilà.
Il inspire pas la confiance. Hein.
Il inspire pas la confiance, effectivement, mais j'aime beaucoup, encore une fois, dans l'idée. Alors, les séries peuvent se permettre ça, et malheureusement, je trouve que les longs métrages le font plus vraiment. Cette idée, en fait, que tu peux montrer une facette vraiment humaine de ce personnage-là, et notamment avec sa petite fille, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est pareil, c'est finalement, pour le coup, c'est cet aspect intimiste, et je trouve que ce personnage le représente bien. Que la série arrive à jouer sur les deux tableaux et te dire, bah voilà, ce personnage qui est pas forcément sympathique, qui est un cliché presque en fait de comment dire de d'homme de main, quand il s'en va, t'as pas envie parce qu'en fait on t'a révélé son humanité.
C'est ça,
mine de rien, c'est il représente bien ça.
Ouais, c'est pas juste un tueur de sang-froid, c'est aussi un grand-père qui aime pousser sa petite fille sur la balançoire.
Voilà, et comme c'est un personnage qui est un peu dans la tradition de ce que j'aime bien, c'est-à-dire il y a Robert Foster aussi dans pas le même type de rôle, mais voilà, des seconds couteaux. C'est un truc que j'aime bien et je trouve que la série joue vraiment bien avec ça. Je pense qu'on en parlera un peu plus avec les comédiens dans le prochain épisode, mais c'est un des trucs que j'aime beaucoup en fait dans Breaking Bad. C'est vraiment proposer des seconds rôles et pas forcément s'attacher à dire tiens, on va prendre des stars, même pour des rôles courts, parce que la série est devenue de plus en plus grande, quoi. C'est vraiment, ils ont résisté à ça et ce personnage-là, c'en est aussi la démonstration d'aller chercher cet acteur Jonathan Banks pour ce rôle-là, quoi.
Ben moi, je vais parler très rapidement d'un personnage très, très secondaire qui est Badger, qui est un des amis de Jesse Pinkman et qui lui sert de dealer, qui au départ nous est vraiment présenté d'une façon assez caricaturale comme le loser définitif, enfin le stoner débile, mais qui, en fait, a un moment de grâce, enfin il y a toute une scène qui repose entièrement sur ses épaules et que j'ai trouvé vraiment charmante et inattendue, dans laquelle il est en train de dealer et il est abordé par un toxicomane squelettique et mal foutu, et il le grille en comme étant un agent de la police, quoi, de la DEA, et il lui explique toutes les raisons qui font que il va pas lui donner de la drogue parce que c'est évident que c'est un agent, et la scène est suffisamment bien écrite pour qu'à un moment donné ce mec squelettique finisse par retourner la situation à son avantage et finir par acheter la drogue et évidemment d'arrêter Badger, de lui dire, et voilà, qui est complètement exaspéré par le fait qu'il avait tout deviné mais qu'il a quand même vendu son deal, quoi.
Il s'est pris les pieds dans le tapis, voilà. Bon, aucun de vous deux n'a mentionné Saul Goodman, l'avocat véreux, mais c'est pas grave, on en reparlera dans l'épisode 4. plus en détail. Je crois qu'en tout cas pour aujourd'hui, on a largement fait le tour des personnages les plus importants de la série. Mais alors, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine, d'après vous ?
Du créateur, j'imagine, quand même, de l'équipe technique derrière, puisqu'en fait, on essayait vraiment de pas trop parler des comédiens, mais plutôt des personnages, quoi. Donc, j'imagine qu'on va parler de ça.
Exactement, on va s'attaquer aux personnes de l'autre côté de la caméra. On s'intéressera à Vince Gilligan, évidemment, le showrunner de la série. On parlera aussi des comédiens et des comédiennes qu'on a vu apparaître dans d'autres rôles, parfois très éloignés de ceux qu'on connaît. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection.
Merci Clément.
Merci Clémence.
We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien. Du 19 mai au 9 juin, We Love Cinema vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur welovecinema.bnp Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.